Perreault.
Je le retrouve pour une première fois cette année, Nicolas Gagnon, qui est directeur Québec pour la Fédération canadienne des contribuables. Bonne année 2026, cher ami. Je te souhaite de la santé puis bien de l'amour.
Ben merci, puis bonne année à vous tous également, puis à tous les auditeurs du 102.1 à Boulevard. Écoutez, ça fait plaisir de se retrouver pour une énième année en votre compagnie, puis on va souhaiter le meilleur là, pour tout ce qui est à venir.
Ah, puis je te souhaite aussi de partir de Laval, partir de la grande région de Montréal, puis t'amener à Québec.
Non, ironiquement, ça reste un projet sur le long terme, mais je considère fortement, si jamais j'ai déménagé de Laval dans les prochains mois ou la prochaine année, Québec va être clairement sur mon radar, je te le promets.
Pour les gens qui n'ont jamais entendu parler de la Fédération canadienne des contribuables, c'est quoi exactement, Nick?
On est un organisme à but non lucratif qui milite essentiellement pour des baisses d'impôts, moins de gaspillage et un gouvernement responsable. Donc, on est implanté à travers tout le pays depuis 1990 et on est présent sur à peu près toutes les tribunes autant que possible. On sort des rapports, on participe à des comités parlementaires. On fait souvent des conférences de presse, des stunts pour justement défendre les contribuables là où c'est possible et surtout pour défier un peu les politiques des gouvernements qui sont pas assez à l'écoute des contribuables puis qui en font pas assez pour vous ou qui ont tendance même à faire pire, à augmenter votre fardeau fiscal. On sait que 2026, ça va être une année possiblement difficile au point de vue, économique. Les perspectives sont pas nécessairement très intéressantes, mais ça veut pas dire qu'il faut baisser les bras pour autant. Le gouvernement peut alléger votre fardeau, puis c'est pour ça qu'on se bat généralement. Puis en plus, ça tombe bien, parce que 2026, c'est une année électorale. Donc, c'est généralement là que les politiciens sont un peu plus à l'écoute, puis on va s'assurer à ce qu'il le soit bel et bien et qu'il vous livre là, des baisses d'impôts, des baisses de taxes, des allègements fiscaux dignes de ce nom, parce que pour l'instant, disons qu'on n'en a pas eu pour notre argent, ou du moins on n'en a pas eu autant qu'on aurait aimé en avoir là, sous le gouvernement de la CAQ. On se rappelle, ne serait-ce que pour citer la baisse d'impôts de 1 point de pourcentage qu'on a eu en 2023, on était supposé en avoir plus. Hein. Il faut se rappeler que la CAQ s'était fait élire en promettant 2,5 points de pourcentage. Fait que un des combats qu'on va mener, c'est s'assurer à ce qu'ils livrent le reste de leur baisse d'impôts. Sinon, c'est une promesse brisée. Pour le reste, bien sûr, on s'oppose ardemment à la fameuse taxe carbone. C'est un de nos chevals de bataille au Québec. Et pour le reste, on regarde toutes les autres mesures qu'on peut faire là, de manière significative pour rendre votre vie un peu plus abordable.
Il y a l'indice des dettes à la consommation du cabinet comptable MNP qui ont été rendus publics. Puis on parle, à travers les lectures, on parle de 10 signaux inquiétants là, parce qu'on a fait des sondages. Écoute, c'est 49%, donc une personne sur deux qui craint une hausse des taux d'intérêt parce qu'ils ont l'impression que cette hausse des taux d'intérêt-là pourrait les mener à la faillite. C'est 9% de plus qu'au dernier sondage. Une personne sur deux pense que la hausse des taux d'intérêt, si hausse des taux d'intérêt il y a, ça les mène à la faillite. C'est très inquiétant, là.
Effectivement, parce que je veux dire, ça a l'air de rien, mais si on augmente les taux d'intérêt, ça augmente les paiements qu'on fait, du moins ça augmente la partie qu'on paye en intérêt sur notre hypothèque, ça augmente aussi les frais qu'on paye sur notre carte de crédit ou notre marge de crédit. Et malheureusement, il y a un très grand nombre de Québécois qui sont à bout, qui sont à un chèque de paye en fait. De pas être en mesure d'assumer les commodités de base, que ce soit le loyer, l'hypothèque ou l'épicerie. Si on augmente ne serait-ce que d'un point ou d'un demi-point les intérêts, ça peut affecter beaucoup, puis ça peut affecter aussi les entreprises qui roulent beaucoup à crédit dans certains cas. Et donc, il y a toute cette problématique-là. Et c'est aussi dans un contexte où est-ce que, malgré qu'on a eu un genre de ralentissement au niveau de l'inflation, on a encore des difficultés, notamment au niveau de l'accessibilité au logement. On remarque aussi que l'inflation alimentaire va augmenter drastiquement aussi au courant de l'année 2026. On voit qu'on est à un soubresaut pour plusieurs d'avoir de la difficulté à carrément être en mesure de d'assumer des commodités de base, et c'est malheureusement une situation qu'on dirait qu'il n'y a pas vraiment d'écoute de la scène politique pour améliorer cette situation-là. Donc, c'est une raison de plus pour maintenir la pression, puis s'assurer à ce qu'en 2026, là, on aille un peu plus d'allègement pour que le portefeuille des contribuables respire un peu plus. Mais pour l'instant, c'est ça. On dirait qu'il y a une crainte. Je sais pas, par exemple, si ça va se concrétiser puis que la Banque du Canada va procéder à une hausse des taux d'intérêt. Mais si ça arrive, il va falloir que les gouvernements soient en mesure de mettre de l'avant justement des mesures supplémentaires là, pour éviter que ce choc-là se fasse ressentir un peu trop fort.
Écoute, on ne se le souhaite pas. Tantôt, il y a un auditeur qui nous a écrit, il a signé à 1,6 400 en 2021. Là, cette année, c'est son année de renouvellement, puis il ne signera pas en bas de 4. Là. On parle de milliers de dollars supplémentaires par année. Et ça, c'est des milliers de dollars supplémentaires que tu donnes cash. Donc, c'est un montant qui est imposé. Mettons que c'est un 10 000 $. On fait un chiffron. Là. C'est un 10 000 $ de plus qu'il va donner pour son hypothèque. Il est au Québec. C'est un employé. Il a fallu qu'il travaille pour 20 000 pour qu'il reste 10 000 dans les poches. Là.
Exact. C'est ça. Quand, en plus, cette situation-là, c'est des milliers, dizaines de milliers de Québécois. Là. C'est pas. Je trouve ça dommage pour le monsieur, mais la réalité, c'est qu'effectivement, cette situation-là, c'est vraiment la grandeur de la province, même à la grandeur du pays aussi. Comme je le disais, je pense environ un Québécois sur deux qui est à un chèque de paie de pas être en mesure, justement, là, de pouvoir rejoindre les deux bouts. Donc, si moindrement, il y a une modification du taux d'intérêt, il y a beaucoup de gens qui vont perdre leur maison. Donc, c'est dommage. Et oui, le fait qu'il y a des renouvellements hypothécaires qui arrivent à ce temps-ci de l'année, il y a du monde qui ont signé à des taux beaucoup plus intéressants que ce qu'on voit présentement. Malheureusement, on ne peut pas imaginer qu'on va revenir aussi très rapidement là, au taux qu'on avait, mettons, pré-2020 ou 2021. C'est ça. Malheureusement, il va falloir qu'on fasse des choix en conséquence. Les Québécois font déjà des sacrifices, mais on voit que les perspectives actuelles vont en forcer plusieurs à en faire davantage.
Ouais, puis ça, là, me fait halluciner, là, parmi les signaux inquiétants. Le surplus mensuel moyen des Québécois, donc ce qui te reste là, à la fin du mois dans tes poches là, pour faire pour t'amuser ou ben, pour faire ton épicerie, là, c'est 744 $. C'est le surplus mensuel moyen des Québécois et c'est le plus faible au pays. Comment on s'explique ça, Nick?
Ben, au Québec, il y a plusieurs éléments. On est la province, ben en fait, on n'est plus la province officiellement la plus taxée en Amérique du Nord parce que maintenant on sait que le fardeau fiscal des provinces atlantiques est un peu supérieur à celui des Québécois. C'est pas grand-chose, par exemple, mais on est quand même la province où est-ce que l'inflation est la plus forte. Ça, faut le rappeler. Et les impôts à la source aussi sont parmi les plus élevés.
Exact.
Donc, c'est des éléments comme ça qui font en sorte que finalement, il nous reste beaucoup moins de marge de manœuvre à la fin du mois. Puis, en plus de ça, ben, on est aussi la province où est-ce que la mobilité sociale est la plus faible. La mobilité sociale, c'est le principe selon lequel vous êtes né dans un contexte social, dans un contexte familial ou socio-économique, et vous voulez avoir la possibilité d'améliorer votre sort. C'est-à-dire donc d'avoir un meilleur revenu, d'avoir des meilleures études, etc. Ben ça, c'est malheureusement le Québec est la dernière province au Canada là-dessus. Donc vraiment, on est une tristement, on est dans une situation où est-ce qu'on a de moins en moins de marge de manœuvre et où est-ce que l'augmentation du coût de la vie ainsi que de ce qu'on a pu observer au cours des dernières années, des tarifs et autres, affectent grandement le pouvoir d'achat des Québécois. Et comme je le martèle constamment, ben malheureusement, que ce soit au niveau provincial sinon municipal, il y a très peu qui a été fait. On a vu les administrations municipales, tant à Montréal qu'à Québec, augmenter, par exemple, non seulement les taxes, mais on a aussi augmenté les fameuses taxes sur l'immatriculation. Donc, c'est des choses comme ça qui affectent directement le portefeuille des familles. Les différentes administrations passent ces règlements-là en pensant que les gens vont éponger ça comme si rien n'était. Mais la réalité, c'est que les salaires dans trop de cas, malheureusement, ne suivent pas l'augmentation des coûts. Là.
Passons au sujet qui touche la Fédération canadienne des contribuables sur lequel vous planchez ces temps-ci. Passeport Canada qui envoie des chèques pour excuser la mauvaise gestion bureaucratique. Qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, ben c'est ça. Écoutez, on a appris il y a quelque temps que Passeport Canada a versé pas loin de 42 millions de dollars pour envoyer des chèques aux gens pour s'excuser de son propre cafouillage bureaucratique. Pour ceux qui ne le savent pas, en 2023, le gouvernement fédéral a décidé de passer un petit règlement comme ça qui disait que si jamais vous attendiez plus de 10 jours pour recevoir votre passeport, ou sinon un délai qui était au-delà de ce qui était prévu initialement, donc entre 0 et 10 jours, puis 10 jours et plus, ben vous receviez un remboursement partiel des frais pour le renouvellement de votre passeport. Sur le coup, ça avait l'air intelligent, mais la réalité, c'est que bon, de un, il y a des passeports qui des retards qui s'accumulent chez Passeport Canada, de un, et de deux, ben c'est des petits chèques là, qui sont envoyés. Là. Ça varie environ entre 17 $ et 114 $ selon bien sûr, les circonstances. Et le problème là-dedans, c'est que, bon, déjà, chez Passeport Canada, on a augmenté les effectifs comme ça se peut pas au cours des dernières années. En fait, on a doublé le nombre de fonctionnaires qui travaillent là depuis 2020. Donc, on se serait attendu à ce que ça règle les problèmes au niveau des retards. Mais l'autre problématique, c'est que les gens reçoivent des chèques puis ils comprennent même pas pourquoi, parce que l'Agence du revenu du Canada ne partage pas ces informations avec les autres ministères. Or, Passeport Canada, ils se font dire, ben vous devez envoyer des remboursements aux gens, mais on peut pas passer par les comptes bancaires directement, donc vous allez envoyer des chèques. Des chèques qui arrivent déjà beaucoup plus tard. Il y a du monde qui reçoit des chèques en ce moment pour des demandes de passeport qui sont arrivées en retard, oui, l'année dernière, mais ils reçoivent une compensation cette année. Donc là, ils se demandent pourquoi ils reçoivent un chèque, et leur réflexe, naturellement, ben, c'est d'appeler l'Agence du revenu pour comprendre pourquoi ils reçoivent un chèque. Et comme vous le savez, l'Agence du revenu, c'est pas tout à fait l'agence où est-ce que vous appelez au téléphone, vous êtes servi rapidement. En fait, c'est connu pour les délais assez abominables, puis en plus de ça, bon, on donne pas nécessairement toujours la bonne information quand on appelle là-bas. Donc, comme ça fait en sorte qu'on augmente le temps d'attente dans une autre agence gouvernementale. Donc, c'est un cafouillage qui en crée un nouveau. Donc, essentiellement, c'est un autre fiasco bureaucratique au gouvernement fédéral. Bien sûr, 42 millions, on dit que c'est pas grand-chose par rapport à toutes les autres dépenses gouvernementales, mais essentiellement, les contribuables payent deux fois. Vous payez, ben, même trois fois, vous payez pour plus de fonctionnaires. Vous payez parce que vous devez renouveler votre passeport, puis vous le livrez en retard, et puis vous payez après ça de vos poches pour que les autres reçoivent des compensations parce que, Passeport Canada n'est pas capable de gérer ou d'administrer correctement là, la distribution des passeports. Donc, essentiellement, c'est un autre gaspillage, comme on en voit à peu près tous les jours au niveau fédéral, mais celui-là, il m'a fait un peu rire parce que c'est l'exemple parfait de on a un problème, puis au lieu de le régler, bon, on garoche de l'argent dans toutes les directions, puis on va espérer que ça va apaiser les tensions.
Ben, c'est ce que j'allais dire, Nick, parce que ce 42 millions-là, il va falloir le dépenser encore l'année prochaine parce qu'on n'a rien réglé au niveau de Passeport Canada.
Exact. Il y a pas les délais sont encore bien présents. Les gens attendent. Au final, c'est sûr qu'il y a toujours une manière de se faire servir rapidement. Je veux dire, moi-même, j'ai dû renouveler mon passeport au début de l'année dernière, avant de partir en vacances. Puis j'étais comme vraiment dans un délai très très serré. Puis genre, j'ai payé pas loin de 200$ pour que ça se fasse renouveler très rapidement d'une semaine. Donc ça, c'est encore possible. Mais encore là, ça c'est un passeport. Imaginez si vous avez besoin de votre passeport rapidement, ou du moins dans les prochains mois. Et que donc il y a vos enfants, peu importe. Donc c'est une facture qui peut augmenter rapidement. Puis après ça, on vous livre ça en retard. Et l'explication qu'on vous donne, ben en fait, elle est pas là. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable d'expliquer les retards présentement chez Passeport Canada. On nous dit qu'il y a de plus en plus de demandes, mais inversement, on a déjà augmenté la capacité bureaucratique de gérer cette demande-là. Donc ça fait aucun sens qu'on ait encore des retards qui persistent. Donc oui, c'est 42 millions, ça c'est pour les dernières années depuis 2023, mais ça pourrait continuer à augmenter si jamais ben le cafouillage bureaucratique qu'on y connaît ben n'est pas réglé de sitôt. Et malheureusement, comme on dit en anglais, don't hold your breath. Je m'attends pas à ce que ça se règle demain matin, mais bon, il va falloir mettre la pression pour qu'éventuellement il y ait un peu d'écoute et que ça se règle au gouvernement.
Et on termine avec ça, Nick, de la Fédération canadienne des contribuables. On parle du programme fédéral de rachat des armes à feu qui pogne son mur, frappe un mur dans un projet pilote. Peux-tu nous donner plus d'explications sur le dossier? Comment on a pensé faire ce fameux programme fédéral-là de rachat des armes à feu en pensant que ça allait être simple?
Ben, écoutez, je pense que c'est, encore une fois, ça, c'est un autre héritage de Justin Trudeau. Là, on se rappelle que ça avait été passé pas mal, dès 2020, il y avait le projet du programme de rachat qui avait été mis de l'avant pour essentiellement aller chercher là, plus de 2000 types d'armes à feu différentes là, qui seraient rendues illégales au Canada. Mais bien sûr, elles sont détenues par des propriétaires d'armes à feu qui sont honnêtes, qui n'ont jamais fait de crime avec. Là, c'est vraiment juste que, du jour au lendemain, le gouvernement fédéral, pour essayer de réduire la criminalité par armes à feu, a décidé de s'attaquer à ceux qui ne commettent pas de crime avec les armes à feu. Donc, essayer de trouver la logique là-dedans. Mais la réalité, c'est que c'est un programme de confiscation et de rachat. Donc, on rend les armes illégales, puis on force un rachat. Et ils ont décidé de déployer un projet pilote à Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse, pour essayer justement de voir comment est-ce que ça va se dérouler. Donc, ça allait toucher une municipalité spécifiquement à laquelle ils ont donné pas loin de 150 000 $ pour gérer ce nouveau programme pilote. Et finalement, sur les 200 armes à feu que le gouvernement espérait aller saisir de cette manière-là, donc en invitant les gens à rendre leurs armes à feu, ben sur les 200, ils en ont juste saisi 25. Donc, c'est un très petit nombre, donc comme quoi, est-ce que les gens sont pas très coopératifs, et on peut s'attendre à ce que ce soit une situation similaire à la grandeur du pays. Là, je veux dire, et on parle, il y a quand même pas loin de centaines de milliers de propriétaires d'armes qui sont essentiellement appelés à se rendre à se débarrasser de leurs armes à feu qu'ils ont eues depuis des années, qu'ils ont acquis à des montants qui sont assez importants, qu'ils ne peuvent plus utiliser d'ailleurs depuis 2020 parce que ce sont des armes qui ont été rendues illégales. Et donc, essentiellement, les contribuables là-dedans, qu'est-ce que ça vient jouer? Ben, c'est parce que nous, on se retrouve à payer pour un programme pilote qui ne fonctionne pas, auquel les gens ne veulent rien savoir des compensations qui seraient versées. Et c'est un programme qui, selon certaines études, pourrait coûter jusqu'à 6 milliards de dollars pour Donc, pas loin de 800 millions pour la saisie des armes elles-mêmes, donc les compensations versées aux détenteurs d'armes, mais aussi, on parle de milliards au niveau du coût administratif. Donc, on est habitué au niveau fédéral d'avoir des cafouillages de ce genre-là. Il faut se rappeler que le fameux registre des armes à feu fédéral à l'époque, c'était supposé coûter 2 millions de dollars quand ça avait été promis. Ça a coûté finalement 2 milliards. Donc, on s'entend qu'il y a des explosions de coûts de même. On est habitué de voir ça sur tous les paliers gouvernementaux, mais là, ça touche effectivement la dynamique des armes à feu. C'est un sujet qui peut être un peu controversé pour certains parce que on pense toujours qu'en s'attaquant aux détenteurs d'armes à feu, on va réduire directement la criminalité. Alors que c'est une dynamique beaucoup plus complexe et la plupart des corps policiers à travers le Canada considèrent que c'est un coup d'épée dans l'eau, littéralement. Mais malheureusement, le gouvernement continue d'aller de l'avant. Donc, on va espérer qu'on n'aille pas jusqu'au bout de ce projet-là et qu'il va être abandonné rapidement par le gouvernement fédéral parce que sinon, ben, on va avoir une facture salée et on n'aura pas des rues plus sécuritaires, malheureusement.
Ben, il était là le point, tu sais. Moi, je pense qu'on s'attaque aux mauvaises personnes. On s'attaque aux chasseurs, tu sais. Ces gens-là utilisent leur arme à feu pour aller à la chasse. Les gangs de rue n'utilisent pas ces armes à feu-là. Une gang de rue prennent les armes à feu qui passent au travers des endroits où la Sûreté du Québec ne peut pas nécessairement patrouiller parce que les gens qui travaillent pour la Sûreté du Québec n'étaient pas là quand les Premières Nations sont arrivées ici, ça a l'air. Donc, c'est les Premières Nations qui ont une problématique avec le passage des armes à feu des États-Unis vers le Canada. Puis c'est ces armes-là qui se retrouvent dans les mains de nos jeunes, que ce soit à Montréal ou Toronto. C'est pas les armes des chasseurs. On s'attaque aux mauvaises personnes juste pour donner une image comme quoi on essaye de faire quelque chose. Mais si tu veux faire quelque chose, là, donne un mandat, là, surveille toute la frontière canadienne, puis essaye d'empêcher le plus possible que les armes à feu passent par là. C'est des armes à feu qui sont illégales pour la plupart, là, qui servent aux membres de gangs de rue. Comprends pas pourquoi on s'attaque aux chasseurs. Pas en plus que ça coûte de l'argent pour rien. Tu sais.
Ben, exactement. Puis si le gouvernement a vraiment à cœur la sécurité publique, ben, qu'il s'attaque aux gangs de rue directement, puis aux groupes criminalisés, c'est eux qui font rentrer les armes illégales.
Qui surveillent la frontière, Nick. Qui surveillent la frontière. Puis incluant les endroits où on trouve que la SQ ou la GRC n'a pas d'affaires parce qu'on a notre propre police, là.
Ben oui, exactement. Puis là, ben ça s'avère qu'au Québec, ben il y a eu un deal entre le fédéral et le provincial. Le fédéral va donner, ben, je pense, 12,4 millions de dollars au gouvernement québécois pour son propre, pour notre participation au programme de rachat des armes. Donc, ça à savoir combien est-ce que ça va coûter au final, puis combien d'armes vont être saisies. Mais faut rappeler qu'au final, tout ce programme-là découle de la Polytechnique, mais aussi la tuerie de Portapic qui a eu lieu en 2020, ouais. Puis qui a donné place en fait à ce projet de loi-là par la suite. Et il faut rappeler que ce crime-là, horrible, a été fait avec des armes qui ont été achetées aux États-Unis en très grande majorité. Là. Donc, je dis pas qu'il n'y a pas de crimes qui sont pas avec des armes longues, qu'il n'y a pas de crimes qui sont pas avec des armes qui viennent d'ici, mais à la fin de la journée, les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est la criminalité qui est le réel problème. Puis, comme tu l'as mentionné, ben, les armes de contrebande sont le véritable problème. Mais ça, on dirait que le gouvernement, il se met des œillères puis il reste fixé sur ses objectifs actuels qui tiennent carrément pas la route.
Nicolas Gagnon, c'est toujours un plaisir.
Toujours un plaisir. À très bientôt.
Salut, bye-bye. Nicolas Gagnon, qui est directeur Québec pour la Fédération canadienne des contribuables. Pour en savoir plus sur la Fédération canadienne des contribuables, c'est contribuable avec un S.ca.
Marceau le matin.